Bonjour à toutes et à tous, par ici les sorties émission de rentrée, Christophe Jubien pour vous la présenter. Nous allons aujourd'hui parler des 28e journées lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loir qui se dérouleront les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains. Puis en seconde partie d'émission, nous évoquerons la saison 2016-2017 de l'association Cinéclap à Chartres qui vous propose tout au long de l'année une programmation de films d'auteurs ou de grands classiques et qui est aussi à l'origine et à la direction du Festival du film scolaire de Chartres. Mais tout d'abord, donc, les 28e journées lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loir qui retrouveront cette année la cathédrale de Chartres qui avait été indisponible en raison des travaux et le lancement de la 28e édition des journées lyriques de Chartres se fera donc vendredi 30 septembre en la cathédrale à partir de 20h45 avec une grande soirée Mozart à la porte du paradis. Des explications d'Ève Ruggieri, directrice artistique des journées lyriques.
Tout le monde le sait à Chartres, c'est la cathédrale dans laquelle je me suis rendue la première fois, j'avais 2 ans avec mes parents, qui ne sont plus de ce monde, mais j'ai gardé en moi cette émotion qui m'avait vraiment laissé les larmes aux yeux, tellement je trouvais ça grandiose, magnifique, impressionnant, émouvant. Et quand un jour j'ai eu l'occasion d'y faire représenter une œuvre, je me revoyais à 12 ans devant cette cathédrale et me disant, écoutant mes parents qui disaient, voilà, ce chef-d'œuvre que vous êtes, j'étais avec mon frère en train de regarder, il a été bâti par des gens dont on ne sait pas le nom, mais qui avaient l'amour de leur travail et qui n'avaient pas besoin d'être connus ou célèbres. Simplement, ils avaient l'amour de leur travail et la foi en Dieu, et voilà ce que ça a donné. Et ça m'avait bouleversé. C'est des choses qu'on n'oublie jamais hein, quand on est enfant. Et donc, elle a été restaurée, elle est magnifique, et on la retrouve enfin entièrement restaurée, avec toute sa lumière, avec la beauté de cette architecture, de ces colonnes qui sont montées vers le ciel véritablement. Écouter Mozart dans son Requiem, qui sera précédé du concerto pour clarinette, qui sont les deux dernières œuvres qu'il ait écrites au seuil de la mort, et où il explique ça, surtout dans le Requiem, mais aussi dans l'Andante, qui est célèbre de ce concerto pour clarinette. Il explique à la fois sa peur de mourir, qui n'a pas peur de mourir, mais il explique avec son génie, avec sa sensibilité, avec cette mélancolie qu'il sait si bien mettre dans ses Andantes particulièrement, et en même temps la consolation qu'il espère de l'au-delà. Donc il y a tout ça dans cette première soirée. Il faut évidemment que ce soit très très bien chanté, sans ça c'est raté, et très très bien joué.
Vous avez dit il faut des voix mozartiennes pour ça. Et c'est quoi une voix mozartienne?
C'est la voix, par exemple, le meilleur exemple, c'est la voix de la soprano Diana Higby, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Elle a chanté Elvire dans le Don Giovanni, dans le Festival de Lacoste et bien d'autres choses avec moi, et à la télévision. Et elle a cette voix qui est ce timbre que je dirais désincarné. Je donne toujours l'exemple du mot carnaval. Carnaval, ça vient de carne levante, c'est la chair ôtée. Il ne reste plus que l'épure, le squelette, l'épure du son. Et c'est pareil pour le son, c'est-à-dire il y a cette espèce de transparence. C'est presque ce qu'on appelait les voce di angeli, les voix blanches des castrats. Ce n'est pas tout à fait ça, et c'est entre ça et les voix d'enfants. Vous savez qu'avant justement l'opération, ces sopranistes qui ont ces petites voix tellement fraîches et tellement pures, et elle a ce timbre-là. Donc elle est là avec c'est aussi une vocation de notre programmation depuis le début, qui était souhaitée par Monsieur de Montgolfier, c'est-à-dire de faire découvrir des jeunes talents. Vous savez que on a fait découvrir Sonia Yontcheva ici, sa première Traviata en France, elle l'a chantée dans le cadre du festival. Je me rappelle plus, c'était en tout cas c'était sa première Traviata. Et donc là, on a une jeune mezzo qui s'appelle Ambroisine Bray. Et qui a ces timbres de mezzo qui se rapprochent du violoncelle, qui est mon instrument préféré après le piano, et qui sont des couleurs un peu mordorées, comme ça, très chaudes, très sensuelles. Elle est formidable. Et puis, il faut un très bon ténor. avec une belle projection, parce qu'il arrive dans des moments où, avec l'orchestre plus le chœur, il faut que la voix passe au-dessus. Il s'appelle Philippe Dau, fait une carrière internationale brillante. Et enfin, on retrouve, parce qu'il est venu souvent, Nicolas Cavalier, merveilleux baryton, qui est donc le quatrième de ce quatuor, et Pierre-Michel Durand qui dirige son orchestre. Et puis, on a la chance d'avoir notre clarinettiste qui s'appelle Florent Héaud, qui est couvert de prix et qui lui aussi a une carrière internationale, qui est jeune, mais qui fait une magnifique carrière et qui est un musicien comme je les aime, c'est-à-dire d'une sensibilité extrême et d'une loyauté face aux partitions tout aussi extrême. Donc, belle ouverture, ça c'est sûr. Et puis ensuite, on va au château de Madame de Maintenon, hein, finalement, château de Maintenon, avec son magnifique jardin refait, recréé par Patrick Potier, qui donne un plaisir de plus, c'est-à-dire qu'on rentre dans cette cour pavée qui n'a pas changé depuis la marquise. On passe sous c'est pas un porche, c'est une partie de l'architecture du château, et on arrive dans ce jardin magnifique avec la perspective du grand bassin, le jardin, la perspective, et au fond le grand aqueduc. On rentre dans un tableau du Bain Robert, et après on va dans l'orangerie, et là on retrouve qui, justement, Diana Higbee, mais cette fois-ci dans un tout autre registre, où elle est à la fois baroque et avec quelques surprises dont je ne vous dis rien, puisque le mot surprise vous explique que je ne peux rien vous dire. Mais on va la découvrir avec quatre jeunes musiciens, c'est son quatuor Musica avec lequel elle travaille, et qui sont musiciens d'abord mais comédiens ensuite, et ils arrivent à mélanger les deux et ils sont pleins de charme. Et on va avoir une très belle programmation, puisque Vivaldi, Mozart, Handel et ses surprises. Ça, c'est le succès assuré. C'est donc samedi 1er octobre à 20h30. Et enfin, on termine au théâtre. Alors, qui dit théâtre ? Moi, je ne veux pas, quand je vais dans un théâtre, faire un concert. Je veux dire, théâtre, moi, ça m'évoque aussi la comédie. Donc, je me suis dit que je voulais une programmation musicale très virtuose et très sensible et émouvante. Donc, j'ai choisi Chopin et Franz Liszt. Donc là, on a de la virtuosité à revendre, mais aussi cette espèce de nostalgie un peu à la Mozart, hein, de Frédéric Chopin, qui s'est jamais remis et d'avoir quitté son pays et sa famille et de la mort de sa sœur. Donc on a ça dans une partie de ses œuvres. Mais on imagine qu'ils se rencontrent tous les deux et qu'ils se racontent qu'ils ont vécu avec des femmes qui n'étaient pas tout à fait celles qu'il leur fallait. Et ça m'a rappelé une phrase de Proust, d'un des grands personnages de Proust, qui a passé 10 ans à se torturer par amour pour une femme et qui termine en disant et dire que c'était même pas mon genre. c'était même pas leur genre. C'est sûr que George Sand, avec sa nature explosive, n'était pas le genre de Chopin, qui était le contraire de ça, et que Marie Dagou, avec son côté femme du monde, grande bourgeoise, grande aristocrate même, épouse qui avait quitté son mari pour suivre un musicien, c'est-à-dire un rien du tout à l'époque, hein. On ne quitte pas le Faubourg Saint-Germain pour suivre un musicien. Elle l'avait fait, donc elle était restée à la fois très blessée par tout ce qu'il s'était entendu dire, et elle ne s'attendait pas au côté un peu volage de notre Francis, qui était beau comme un dieu et qui était suivi par une cohorte de jeunes filles enamourées, dont certaines restaient un peu plus longtemps auprès de lui que c'était permis. Et surtout, celle qui a révulsé Marie Dagou, c'est-à-dire Lola Montes, danseuse espagnole, qui s'appelait pas Lola, qui n'était pas danseuse et pas espagnole, mais qui était une courtisane. Et ça, quand Marie Dagou va apprendre que Francis a une liaison avec elle, ça va être le sommet. Elle n'était pas faite pour lui, quoi.
Et ça, c'est un spectacle que vous avez écrit.
C'est un spectacle que j'ai écrit, qui va être donc interprété par un merveilleux pianiste qui d'ailleurs vient de sortir un disque et qui est consacré à Schumann, qui s'appelle Philippe Bianconi, que je connais depuis très longtemps parce qu'il est passé lui aussi. Moi, j'ai eu mon prix d'abord au Conservatoire de Nice avant d'aller vers Paris, et lui a eu son prix aussi au Conservatoire de Nice avant d'avoir, alors lui, au niveau international, quelques-uns des plus grands prix, entre autres le concours international Van Cliburn, et surtout qui fait une carrière, il a fait dès 21 ans une carrière aux États-Unis époustouflante qu'il continue de faire, ce qui fait qu'on l'a pas assez souvent en France et qu'il faut surtout pas le manquer dans ce programme, puisqu'il va jouer à la fois Chopin et Liszt avec quelques-unes des œuvres les plus connues, les plus virtuoses.
Allez applaudir les musiciens, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils le méritent. On ne devient pas un grand musicien comme ça, comme on devient par exemple Jeff Koons. Dans les arts plastiques, il faut du travail, il faut se montrer, vous l'avez dit, meilleur que les autres.
Oui, puis surtout on n'a pas les mêmes salaires que Jeff Koons, donc ce sont des années de travail. Moi je me rappelle quand j'étais au conservatoire de Nice, je rêvais d'entrer au conservatoire de Paris, le concours était déjà très difficile. Il ne suffisait pas d'avoir un premier prix à Lyon ou à Lille ou à Nice, il fallait avoir le niveau pour entrer au conservatoire de Paris, passer le concours. Et une fois qu'on en sortait avec un premier prix, ce qui demandait déjà des heures et des heures et des heures de travail et des années, c'était pas suffisant. Il fallait affronter les concours internationaux où là on se retrouvait avec la grande vague d'arrivée des Chinois, des Japonais, des Russes. Moi je me rappelle de Brigitte Angerer qui avait bien compris ça et qui après son premier prix était partie au conservatoire Tchaïkovski de Saint-Pétersbourg, de Moscou, où elle avait eu son premier prix et des concours derrière et tout ça. Merveilleuse pianiste qui hélas n'est plus de ce monde et qui était aussi une grande grande amie. Et il y a tout ça. Et c'est une fois qu'on a fait tout ça, il faut encore qu'un grand chef d'orchestre de grande réputation vous invite dans un de ses concerts pour que vous atteigniez le top niveau, comme on dit aujourd'hui. Donc vous imaginez les heures où on est sur son piano et on fait rien d'autre que travailler, travailler, travailler. Donc c'est vrai que quand je vois des Jeff Koons qui ont une équipe entière qui font le travail pour lui et qui gagnent des fortunes, ça m'exaspère. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même parce que j'ai atteint une maturité, on va dire pudiquement, qui me permet maintenant de dire un peu ce que je pense. Voilà.
Une dernière question, comment s'est passée la première édition de votre festival Gersois?
Un triomphe. Un triomphe, c'était extrêmement mignon parce que d'abord les enfants s'étaient donné un mal fou, ils avaient collé des affiches partout. Figurez-vous que je suis allée faire des courses à Condon dans la voiture de la maison et en descendant, que vois-je, ma tête collée derrière avec tous. Je me suis dit, ah non, il faut enlever ça tout de suite, je vais pas me promener avec mon nom collé sur la vitre arrière, j'ai honte. Et ça a très bien marché, les gens étaient ravis, les chanteurs ont merveilleusement chanté, il faisait très beau, les jardins étaient illuminés, ils avaient obtenu, parce qu'ils se sont décarcassés pour avoir du mécénat, ils avaient obtenu 1000 chandelles qui illuminaient tous les jardins, toutes les façades de la maison. Donc il y avait d'abord le concert, ensuite le champagne, et puis après un dîner cocktail qui était préparé par un chef qui a une étoile, qui était délicieux, et en même temps, au fur et à mesure que la nuit tombait, les jardins s'éclairaient et recréaient un univers très onirique. C'était absolument magnifique. Et en même temps, très bon enfant. Les gens étaient ravis. On était dans les jardins. Voilà. C'était très agréable.
Merci beaucoup et à très bientôt alors.
À très bientôt.
Réservez dès maintenant vos places à Chartres le 30 septembre, à maintenant le 1er octobre et le 2 octobre à Dreux pour ces 28e journées lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loire qui vous sont proposées par Ève Ruggieri. Renseignements et réservations au conseil départemental d'Eure-et-Loire 02 37 18 26 26. Allez, on écoute Mozart, évidemment, un extrait du Requiem et on se retrouve ensuite pour la seconde partie de cette édition de Par ici les sorties. C'était le Dies Irae du Requiem de Mozart, joué par le Conservatoire de Chartres. Seconde partie de notre émission, après la musique, le cinéma, en compagnie de Dominique Beaufort, président de l'association Cinéclap, qui nous présente la saison 2016-2017 de cette association chartraine.
Last but not least, Dominique Beaufort pour nous parler de la saison 2016-2017 de Cinéclap. Alors, avant toute chose, peut-être rappeler ce qu'est l'association Cinéclap et quels sont ses buts.
Alors là, c'est une association, donc loi 1901, dont les buts, c'est de développer la culture cinématographique, et en particulier auprès des jeunes publics, ce qu'on appelle l'éducation à l'image. Voilà. Avec plusieurs activités. D'abord, historiquement, le Ciné-Club, qui a lieu tous les mois, une fois par mois, à la médiathèque L'Apostrophe, avec un programme sur 10 films, avec des films qui sont maintenant des films récents. Il y a deux tiers de films récents qui ne sont pas passés aux Enfants du Paradis, et un tiers de films du patrimoine. Et souvent, des films qu'on essaye de couvrir du monde entier. Très peu de films de français, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a un cette année. Beaucoup de films américains, c'est pareil. Donc beaucoup de films du monde entier, des cinémas qu'on n'a pas l'habitude de voir. Deuxièmement, on soutient le cinéma art et essai aux Enfants du Paradis, donc en étant partenaire avec le cinéma sur certaines projections, comme par exemple le Ciné-Culte. Donc Ciné-Culte a, là par contre, c'est une programmation mensuelle aussi, mais c'est des films du patrimoine. D'autres films qu'on programme, par exemple des actions, par exemple on va faire le cinéma coréen avec l'association de Dreux, le festival Regard d'ailleurs de Dreux. On va faire sur le jazz avec Jazz de Mars, un certain nombre d'actions comme ça tout au long de l'année sur le cinéma art et essai. Et enfin, troisièmement, Cinéclap, c'est le festival qu'on a au mois de juin, festival jeunesse, sur la jeunesse, avec à la fois des films d'auteurs. Cette année, on avait beaucoup d'avant-premières, des réalisateurs qui sont venus, des films pour le jeune public, et puis aussi des films en compétition de jeunes qui réalisent des films dans le cadre scolaire ou universitaire et qui viennent les présenter à Chartres pendant 3 jours.
Une question que je ne vous ai jamais posée, je crois. De quand date votre passion du cinéma ?
Comment t'es née ?
Ah, moi, je ne sais pas. La passion, j'en sais rien. La passion. D'abord, je suis amoureux. Je ne sais pas si c'est passionné. Hein ? Voilà. J'aime bien le cinéma. Je suis amoureux du cinéma. Alors, j'aime le cinéma mon premier film que j'avais dû voir, je devais avoir une dizaine d'années, c'était à Maintenon, dans un cinéma qui s'appelle Georges Ory, qui était tenu d'ailleurs par l'abbé du coin qui avait rénové cette salle. C'était l'abbé François, je m'en souviens encore, et qui avait rénové cette salle et qui faisait une programmation. Je me souviens plus du. Il y avait Kandara dans le titre du film, le premier film que j'ai vu. Bon, puis après. Alors après, j'ai suivi. Puis quand j'étais étudiant, j'allais à un ciné-club. Et puis voilà, j'ai toujours suivi. Et j'ai lancé. Donc j'ai voulu partager, en particulier aux jeunes, quand j'étais prof à l'UFM, il y a 20 ans, donc que j'ai lancé ce ciné-club. Et puis petit à petit, voilà, les autres activités qu'on a mis en place depuis.
Ah, il me semble que vous prouvez qu'on peut être à la fois amoureux du cinéma d'art et essai et amoureux du film de genre, parce que vous diffusez aussi les deux. Parfois ça s'oppose, quoi. On dit c'est un film de genre, c'est. Non.
Alors c'est quoi le film de genre, monsieur Jubien?
Je sais pas, moi j'attends que vous me le disiez.
Un film de genre, c'est des. C'est
le polar, le western.
Oui, c'est ça. Ça n'empêche pas que ce soit des films d'art et essai. Au contraire, le western, moi j'adore le western. J'adore aussi les polars, les films de Melville, tous les films américains, avec Humphrey Bogart, tous ces gens-là, j'adore. Moi j'aime pas trop film de genre, ça, pour moi c'est pas du tout péjoratif, quoi, film de genre. Je dirais il y a des bons films et puis il y a des mauvais films. Et donc dans tous les genres, cinéma, que ce soit la comédie, que ce soit le western, que ce soit le drame, il y a des bons films, des mauvais films, quoi. Voilà. Et donc moi j'aime bien les bons films, quoi.
Alors il y en a que des bons là. La séance ciné culte. Oh là là, mon Dieu, L'homme qui aime les femmes de Party, La porte du paradis de Cimino, Fargo qu'il faut absolument voir aussi, des frères Cohen, et La belle équipe. C'est très rare de pouvoir voir La belle équipe sur grand écran aujourd'hui. Hein.
Ah oui, les films de Duvivier là ont été remasterisés, sont ressortis cette année. Donc il y en a un certain nombre. Donc là, au niveau de ciné culte, on a choisi La belle équipe. Donc, comme chacun sait, c'est sur les 36, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, je voulais parler juste un mot peut-être du premier film, L'homme qui aimait les femmes, c'est notre première séance. C'est avec Charles, c'est un film sur Charles Denner. C'est une occasion de célébrer Charles Denner, qui est un très bon acteur, et son fils Charlie Denner. Et de Dreux, habite à Dreux, et donc c'est avec lui qu'on a mis en place cette séance. Donc il y aura le film, il y aura Charlie Denner, parce qu'il a le même prénom avec son père, qui sera là, qui viendra parler du film de son père. Il y aura des éléments d'expo qu'on va présenter, et il a écrit aussi un livre, et donc c'est avec les Sperluettes, avec Olivier Losty, on fera une séance de dédicace pendant cette soirée-là. Donc j'insiste un peu sur cette soirée parce que c'est quand même important, c'est notre première séance, et c'est un peu spécial. Quoi. Ouais. Voilà.
Un bel hommage à Charles Denner, oui, tout à fait. Comment adhérer à Cinéclub ? Parce qu'évidemment, on peut s'abonner et puis on a peut-être des tarifs intéressants.
Alors, donc, l'adhésion, c'est 15 euros et 10 euros si on a moins de 25 ans. C'est bien quand on a moins de 25 ans, ça permet d'avoir des jeunes dans l'association. C'est pour ça qu'on fait un tarif préférentiel. Donc, ça permet l'adhésion d'assister gratuitement à toutes les séances de la médiathèque. Voilà, il y a 10 séances dans l'année. Donc si on vient à toutes les 10 séances, bah, ça coûte pas cher. Et ça permet d'avoir un tarif réduit aux séances que nous organisons en partenariat avec le cinéma Les Enfants du Paradis. On peut prendre cette adhésion aujourd'hui, par exemple, pendant le salon, mais aussi à chaque fois qu'on a une séance. Par exemple, la première séance, c'est le 13 septembre à la médiathèque. Donc là, traditionnellement, il y a beaucoup de gens qui renouvellent leur adhésion ce jour-là. Mais on peut prendre sa carte d'adhésion à n'importe quel moment aux séances qu'on organise.
Alors, et on peut se reporter sur le site www.ciné-clap.com. On peut aussi appeler au 06 70 03 24 70. Merci beaucoup, Dominique.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Et voilà, fin de cette édition de Paris Ciné Sortie. Je vous retrouve dans 4 semaines pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes journées, même des nuits si vous le souhaitez, à écouter votre radio préférée, Radio Grand Ciel. Allez, à tout bientôt.
Time is right. You will. way.
Lord to provide.